voilà, le déclic arrive à ce moment-là, c'est que j'ai été mis dans un fauteuil roulant, en fait. Je suis resté plusieurs mois. Puis après, de longues semaines en béquille, puis après, de longues semaines de rééducation. Je suis quelqu'un pour qui le mouvement est fondamental. C'est ça qui me rend vivant, c'est ça qui donne du sens, en fait, aux choses et à ma vie. Et bref, et comme j'étais immobile, bah, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, lorsque j'étais dans mon fauteuil roulant, je me suis juré, j'ai fait ce pacte avec moi-même, d'arrêter les conneries et de suivre mes rêves. À l'issue de cet événement-là, j'ai tout fait pour réaliser ce rêve et c'est là où l'Islande est née. Mais bon, voilà, donc j'ai été héliporté à Reykjavik et ils m'ont mis l'épaule en place. Au bout de la troisième tentative, parce que j'avais tellement froid, j'étais tellement crispé qu'ils ne pouvaient pas me la remettre, en fait. Donc, ils ont dû m'endormir complètement, anesthésie générale, pour pouvoir me remettre l'épaule en place. Je suis re-rentré en France pour soigner mon épaule. Et après 6 semaines, je suis reparti en Islande. Elle dure 144 jours. Toutes les rivières étaient glacées. Souvent, je traversais sur des ponts de neige à 4 pattes, ou alors je m'allongeais, puis je rampais, en fait. Puis des fois, je suis passé à travers.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute.
Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Antoine Guillotel. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour PA.
Comme on dit, effectivement, un autre PA en face.
Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de parler sur cette scène orale.
Et surtout, merci de venir, parce que c'est vrai qu'en ces temps délicats, c'est pas simple de rencontrer les gens. Donc, je suis très content d'avoir l'occasion de te voir en présentiel. Pierre-Antoine, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter.
Wow, qui suis-je ? Wow, vaste question. Je vais la faire identitaire. Alors, je m'appelle donc Pierre-Antoine Guillotel. Je vais sur mes 28 ans en avril prochain. Je suis donc une bête à cornes. Breton, Morbihanais, Vannetais, ça c'est pour la focale géographique. Et oui, et si jamais je suis ici, c'est pour un peu relater ce coup de gouvernail que je viens de donner assez récemment. Voilà, j'étais sur une voie qui n'était pas la mienne et je viens d'en emprunter à une autre. Donc avant, j'étais quelqu'un qui me dirigeait progressivement vers une carrière de chercheur en économie ou d'économiste financier. Et puis, on en parlera certainement plus tard, mais suite à un petit accident en Australie, j'ai changé de voie. Voilà. Et puis, j'en avais un petit peu marre de subir cette existence. Donc, j'ai décidé d'en prendre les rênes et d'articuler ma nouvelle vie. C'est pas une nouvelle vie, mais du moins un second chapitre, autour de deux grands piliers qui sont l'écriture et l'aventure. Et l'aventure, surtout vers des contrées un peu plus nordiques. Voilà, le Grand Nord m'attire beaucoup. Et donc voilà, globalement, si je devais faire court, sinon j'ai un petit frère voilà, qui a 4 ans de moins que moi. Mes parents sont bretons également. Voilà, je suis quelqu'un de... Enfin, j'aspire à une forme de simplicité. Je ne suis pas dans la même démarche que Thoreau dans la pauvreté volontaire, mais en tout cas, si jamais j'ai changé de vie, c'est pour être dans une simplicité qui était volontaire. Voilà pour la première question.
C'est canon. Attends, juste pour bien comprendre, on va reparler effectivement de l'Australie et de ce changement de gouvernail, comme tu disais. Tu as parlé de chercheur en économie. Qu'est-ce que tu fais comme étude, du coup, pour avoir cette ambition de carrière ?
Alors, je vais essayer de ne pas être trop exhaustif, sinon ce sera chiant, mais j'ai fait une prépa, enfin 2 ans de prépa, Hippo Cagne-Cagne en Bretagne. Ensuite, je suis monté à Paris, à la Sorbonne. Là, j'étais... j'avais entre guillemets le cul entre deux chaises entre l'économie et la science politique. Et en master, j'ai opté pour l'économie et j'ai intégré PSE, donc l'école d'économie de Paris. Ensuite, j'ai fait quelques stages, bref, dans des banques, dans les départements de recherche des banques. Et c'est paradoxalement dans ces départements-là que m'est venue les idées dont je concrétise actuellement les projets, quoi. Donc je viens de PSE, donc l'école d'économie de Paris. Je me dirigeais progressivement vers une carrière vers la recherche, quoi. J'étais spécialisé dans la prévision des taux d'intérêt et des taux de change, des variations de taux de change dans le monde entier, sur certaines zones particulières, comme l'Afrique, l'Asie, etc., etc. Et dans mon dernier stage que j'ai fait dans une grande banque dont je tairai le nom, car elle ne le mérite pas, j'ai pris conscience de certaines choses et j'ai tout arrêté.
Tu t'es dit que tu voulais pas participer à cette...
Éthiquement déjà, ça n'allait pas. C'était pas en lien avec mes valeurs familiales, déjà, et puis celles que je me suis construit au cours du temps, personnellement, par l'expérience. Et deuxièmement, parce que se lever très très tôt le matin et rentrer très très tard le soir et passer plus de 2h30 dans les transports à Paris entre son appartement à Avron et La Défense dans l'ouest de Paris, ce n'était pas la vie que je souhaitais en tout cas. Et à l'issue de ce grand stage-là, qui m'a permis de gagner certes quelques sous, je suis allé rejoindre ma petite copine de l'époque en Australie. Elle faisait des études de journalisme à l'époque. Maintenant, je crois qu'elle est devenue journaliste. Et donc, on s'est rejoint à Sydney. On avait comme projet de partir ensuite en Nouvelle-Zélande, parcourir l'île du Sud pendant un peu plus de 2 mois. Donc, on a acheté une voiture aux enchères, à peu près à 2 000 $. Et bref, après 2 mois, on a réussi à la revendre 2 005 $. Énorme profit. Pendant deux mois, on a parcouru cette île absolument sublime. On a fait pas mal de marches. Et on est rentré ensuite en Australie. Et en Australie, il y avait ce besoin toujours d'intensité de l'existence. On logeait dans un appartement dans un quartier de Sydney assez cool. C'est le quartier qui historiquement héberge énormément d'aborigènes. Donc une grosse empreinte historique. Et ma copine donc était entre guillemets spécialisée sur ces questions-là. Elle faisait beaucoup d'études journalistiques sur ces personnes et c'est extrêmement intéressant. Et bref, et moi de mon côté, du coup, je me suis engagé en tant que marin pêcheur dans la flotte de Sydney. C'était une flotte d'Italiens en réalité. C'était une famille italienne, une unique et seule famille italienne qui détenait tous les bateaux. Il y en avait 6, si ma mémoire est bonne. Et pendant à peu près 10 jours, j'ai écumé les pontons. Tous les matins, je me levais à 7h, 7-8h. Et puis, j'allais voir tous les capitaines, leur proposer mes services. Parce que le problème, c'est que j'étais en situation illégale. J'avais pas de visa de travail. Enfin bref, c'était un peu la déglingue.
Parce que tu parlais le déclic là, de tout arrêter. Il vient d'abord en France à la fin de ton stage avant de partir en Australie.
Non. Le déclic, il vient un peu après. J'y viens. La démarche première, on va dire, c'est... Le déclic s'est passé en Australie, mais la volonté de partir en Australie était déjà un peu antérieure à ça, mais ça n'a rien à voir avec cette volonté de changer de vie. Je rejoignais juste ma copine de l'époque en Australie pour faire un voyage quelconque.
Un voyage qui a finalement pris plus de temps que prévu.
Ouais, effectivement. Mais... du coup, ouais, donc je suis devenu marin après avoir, on va dire, saoulé les capitaines parce qu'ils n'en pouvaient plus de me voir. Mais en gros, je partais 3-4 fois par semaine en mer de Tasmanie, un peu plus au sud ou un peu plus au nord, entre Coffs Harbour et je me souviens plus de la ville du nord. Bref. En gros, ouais, donc on faisait des campagnes de 40 heures à peu près. On partait en mer pendant 40 heures, donc on ne dormait pas pendant 40 heures. Mais c'était juste exceptionnel, quoi. C'était, ouais, moi, il y avait une intensité d'existence sur ces bateaux-là qui était folle, quoi. Et c'était rude, hein. J'étais un green, comme on dit. J'y connaissais rien, donc j'ai appris les rudiments de la pêche. Et puis le langage des marins aussi, parce que c'est, enfin, on est pris pour de la merde, on va pas se mentir. Donc c'est très très difficile. C'est un métier qui est vraiment vraiment compliqué. Je dormais pas beaucoup, mais lorsque je rentrais, j'étais heureux, quoi. J'étais heureux d'être en vie, j'étais heureux d'être là, et donc tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'arrive le moment où mon capitaine m'a dit, bah, écoute, je dois prendre des vacances. Donc il est parti aux îles Fidji, et donc tout s'est arrêté. Donc moi aussi j'étais en vacances, forcé. Et à ce moment-là, donc par un beau matin, je pars pour je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je crois que c'était pour aller pêcher, ramener du poisson à ma coloc parce qu'on était en coloc à l'époque à Sydney. Et en fait, je chute d'une falaise à Sydney. J'étais censé descendre en bas pour aller pêcher et ramener un poisson. Et il se trouve que ouais, j'ai chuté assez lourdement sur à peu près 5 mètres. Et j'ai perdu connaissance. Et j'ai mis, je sais pas par quel heureux hasard ça a été possible, mais je suis remonté par mes propres moyens. Savoir qu'au moment où je me suis cassé la gueule, je me suis fracturé toute la partie droite de mon corps. Je me suis fracturé l'os pelvien, la hanche, le coude, partie du genou, etc. etc. Et je ne sais pas pourquoi, l'instinct de survie, sûrement, la stupidité de vouloir vivre. Je suis remonté en haut de la falaise en escaladant, et puis j'ai été amené à l'hôpital, parce que là où il y avait des gens qui m'attendaient, enfin qui m'ont vu déambuler comme une espèce de zombie. C'était pas beau à voir.
Et... J'avais pas compris que pêcher, c'était vraiment dans le sens... Pêcher avec ta canne à pêche. Ouais, pour moi, c'était passer au marché à acheter du poisson, quoi.
Mais... Non, ça, c'est trop facile, ça. C'est beaucoup trop facile.
Ok.
Non, mais voilà, j'avais été marin sur. Je dis pas que j'avais le goût du poisson, mais bref, j'avais envie d'être seul, certainement, et puis j'avais envie de me rendre utile pour la collectivité qui était à l'époque celle de la colocation. Point. Ça s'arrête là.
Donc tu te mets sur la falaise, juste pour reciter la scène, tu te mets sur la falaise.
Je redescends.
Tu lances la
canne. Non, je descends de la falaise. Je descends de la falaise parce qu'il y avait un replat en contrebas qui me permettait d'être proche de l'eau. Mais le replat était constitué de rochers. C'était surtout des rochers qui étaient calcaires, donc très très blancs. Et en fait, en descendant de la falaise, je suis vraiment stupide. Hein. J'ai confondu en fait un arbre mort avec un eucalyptus. L'eucalyptus est gris, c'est un arbre qui est gris, qui est parfois blanc lorsqu'il est trop exposé au soleil. Et j'ai confondu un eucalyptus, qui est courant là-bas en Australie, avec, en fait, l'arbre était mort. Donc au moment où j'ai mis mon pied pour prendre appui sur cet arbre-là, l'arbre s'est fendu en deux, et je n'avais plus de prise, et je suis tombé, sur le côté. Heureusement, je ne suis pas tombé sur la tête, sinon je pense que je ne serais pas ici pour raconter toutes ces bêtises. Mais... je suis tombé heureusement sur mon épaule et enfin sur mon côté droit et bref donc j'avais un peu tout qui était fracturé à ce moment-là. Donc j'ai été emmené à l'hôpital, j'étais hospitalisé pendant plusieurs jours et voilà, le déclic arrive à ce moment-là, c'est que j'ai été mis dans un fauteuil roulant en fait. Et je suis resté plusieurs mois. Enfin, je crois que c'est un peu plus de 2 mois dans le fauteuil roulant. Puis après de longues semaines en béquille, puis après de longues semaines de rééducation. Et en fait, lorsque j'étais dans ce fauteuil roulant-là, ma copine, à l'époque, elle était étudiante, donc elle partait à l'université tous les matins. Donc souvent, j'allais sur le trottoir avec mon fauteuil roulant, et puis toute la journée, j'attendais le soleil. Et avec mes livres et mes calepins, j'écrivais beaucoup, je lisais beaucoup. Et je suis quelqu'un pour qui le mouvement est fondamental. C'est ça qui me rend vivant. C'est ça qui donne du sens en fait aux choses et à ma vie. Et bref, et comme j'étais immobile, ça a été très compliqué pour moi. C'était très 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 compliqué. Et à ce moment-là, lorsque j'étais dans mon fauteuil roulant, je me suis juré, j'ai fait ce pacte avec moi-même d'arrêter les conneries et de suivre mes rêves. Et mes rêves, c'était quoi? Mes rêves de gamin, c'est lorsque je lisais Jack London ou Joseph Conrad ou Hemingway, tous ces grands auteurs qui m'ont énormément inspiré. Bien, du coup, mon rêve, c'était de partir dans le Grand Nord et de témoigner de ce grand voyage, de tous ces grands voyages, de toutes ces grandes traversées par les mots et en photo. Donc, dans mon fauteuil roulant, C'était en 2018, ça. Je me suis juré d'arriver à cette fin-là. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic, en fait. Ce basculement, il s'est fait à ce moment-là, dans ce fauteuil roulant-là. Et puis, à l'issue de cet événement-là, j'ai tout fait pour réaliser ce rêve, et c'est là où l'Islande est née, en fait.
C'est excellent. Ça veut dire aussi que l'accident, donc, terrible, tu t'arrives à remonter comme tu peux, tu te retrouves hospitalisé et 2 mois toujours là-bas en Australie et bloqué, entre guillemets, par l'agenda de ta copine qui est encore en études. Et finalement, heureusement, parce que c'est une situation à peu près stable, mais toi, tu te sens complètement, bon, pardon pour le terme, handicapé dans ta capacité d'être non mobile, quoi.
C'est ce que j'étais. J'étais handicapé et j'ai pas du tout peur ni honte de le dire. Au contraire, je suis même honoré. C'est-à-dire que j'ai humblement partagé ce que bon nombre de personnes sur cette terre vivent au quotidien. Et au contraire, je vois ça plus comme une bénédiction. C'est-à-dire que cet événement-là m'a fait prendre conscience de certaines choses. Je crois vraiment dans le changement par le choc. Le changement par la subtilité ou des choses qui sont... comment dire, je trouve pas mes mots. Par la lenteur, par exemple, j'y crois moyennement, quoi. Je pense que pour faire prendre conscience de certaines choses aux gens, il faut le choc. Le choc par le moche ou par le beau, peu importe. Par la difficulté, en tout cas, je crois au choc. Et moi, ça a été ça. Mon choc, ça a été cet accident-là, cette immobilisation forcée. Donc oui, j'étais effectivement handicapé. Je dois énormément de choses aujourd'hui à ma copine qui s'est énormément bien occupée de moi. Je sais ce que je lui dois, beaucoup de choses. Et donc oui, j'ai plus vu ça comme quelque chose de positif. Ex post, hein, évidemment, sur le moment, j'étais un peu au fond du trou, hein, je ne vais pas mentir, mais maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Ça te fait prendre conscience de la valeur de la vie et de la valeur de tes rêves aussi. Un rêve, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est quelque chose qu'on a au fond de nous depuis très très longtemps, qui a ancré au fond de nous depuis très très longtemps. Et voilà, il faut respecter l'enfant aussi qui est en nous. Et puis moi, je suis persuadé que l'enfant que j'étais il y a quelques années, il m'aurait pas vu en train de manipuler des chiffres toute la journée en créant des algorithmes sur des hypothétiques futures qui jamais ne viendraient au jour, quoi. Et je trouve ça un tout petit peu dommage.
Mais c'est pour ça que la phrase maîtresse de ce podcast, c'est celle de Syntex, hein, qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, hein. ». J'y crois à fond autant que toi. Moi, je vois juste la situation de l'extérieur, bien sûr, hein, donc c'est délicat, mais est-ce que tu penses que tu as moins profité du coup de ces mois-là en Australie, alors que tu es à l'autre bout du monde et comme j'y suis passé, je peux me mettre à ta place. Est-ce que tu penses t'as moins profité de la vie là-bas parce que tu étais en fauteuil roulant, ou est-ce que du coup tu as plutôt pris une vision différente de ce que représente ton quotidien et donc tu t'en es ensuite usé, enfin tu t'en es servi en tout cas dans le sens pour la suite?
Les deux, c'est-à-dire qu'effectivement nos projets initiaux ont été sabrés. On a dû faire des compromis et le compromis aussi viable soit-il, souvent mène à deux parties qui sont un peu tièdes. Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que le gros projet de road trip initial avec ma copine, il a avorté. Elle est partie seule. Moi, je suis rentré parce que je devais quand même me soigner en France, mine de rien, à la fin. Et puis, j'avais pas envie d'être un obstacle. J'ai été un obstacle, hein, pour elle, hein. Mais j'ai pas envie d'être un obstacle trop longtemps, on va dire. Donc on a quand même voyagé un petit peu malgré ma hanche un peu flinguée. On a fait un peu la côte est, on est remonté jusqu'à la Daintree Rainforest. Mais oui, donc évidemment les gros projets ont avorté, ça c'est une certitude. Mais ça effectivement c'est que en surface, parce que en profondeur, mon quotidien était différent. J'ai pu davantage profiter des livres, par exemple, de l'écriture, et puis de réfléchir aussi. Avant, j'avais sur le bateau, sur l'Arakiwa, c'était le nom du bateau, j'avais une vie, je raflais les expériences, j'apprenais très très vite. Donc j'étais dans une démarche d'épuiser le champ des possibles, tu vois, de ce qui pouvait s'offrir à moi. Voilà, j'étais sur cette mer immense avec des gens formidables qui m'ont énormément appris. Donc j'étais dans l'expérience. Dans le fauteuil roulant, c'est différent, c'est un voyage qui est intérieur. C'est une plongée en soi, dans les livres et dans l'écriture. Donc en soi, je pense que cette situation de handicap mène à deux choses, à du positif et à du négatif, évidemment. Ouais.
Et alors du coup, tu dis, tu passes quelques mois là-bas à te faire soigner sur place, puis tu rentres en France te faire soigner. On est toujours en 2018 ?
Oui, je crois. Alors, non, on aurait été en 2019 à ce moment-là.
19,
parce que je suis arrivé en Australie en décembre 2018 et l'accident est arrivé en avril, peu avant ou peu après mon anniversaire, je crois. Ouais. Donc c'est avril 2019, il me semble. Ouais.
Ok. Donc avril 2019, tu rentres en France globalement sur l'été. Qu'est-ce qui se passe entre ton départ en Australie et ton arrivée en France, quoi, finalement ?
Mais comme j'avais goûté, donc à ce moment-là, lorsque je suis rentré en France, j'étais un peu plus apte physiquement à vivre. Donc j'étais plus mobile. J'ai repris ce que j'appelle le syndrome des jambes indociles. J'ai ce besoin de marcher tout le temps. C'est en moi, je ne l'explique pas. La rééducation, en fait, elle s'est faite très très naturellement. J'ai marché. Tous les jours, je marchais. C'était la folie. Et cette expérience de marin en mer de Tasmanie, elle est restée en moi et je ne pouvais plus revenir à un métier dit classique dans la finance, etc. Ça, c'était hors de question. J'avais besoin d'être dehors, d'être bercé par l'extérieur et la mer. Et c'est à ce moment-là où je suis devenu ostréiculteur.
Ouais. Ok, ostréiculteur. Donc, ça demande une formation d'ailleurs, d'être ostréiculteur ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Tu rejoins un gars qui l'est déjà et t'apprends comment il fait et tu t'y mets quoi ?
Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis intégré dans un chantier morbihanais.
Okay.
D'abord, j'étais intérimaire. Donc, je me suis inscrit dans une agence d'intérim. Et l'agence d'intérim m'a proposé ce travail-là. Et ça m'a énormément plu, quoi. Ça m'a énormément plu. Je suis un fervent lecteur de Zola et j'avais l'impression d'être dans un germinal salé. J'étais au milieu d'ouvriers qui avaient certes les mains calleuses, mais en tout cas, ils avaient un énorme cœur. Et bref, beaucoup, beaucoup d'humanité dans ce métier. C'est un métier qui est extrêmement rude. On est soumis à une certaine cadence, à des impératifs qui nous dépassent. On part tous les jours en mer, faire des marées, dans le golfe du Morbihan, qui est quand même le plus beau golfe de cette terre. Et c'était un métier extrêmement enrichissant. Moi, à ce moment-là, j'avais ce projet d'expédition qui trottait dans ma tête. Et être ostréiculteur, ça m'a préparé physiquement et mentalement à cette expé-là. Être ostréiculteur, c'est... on est soumis aux horaires de marée, évidemment. Donc, lorsque la marée est en pleine nuit, on y va quand même. En été, en automne ou en hiver. Oui, je suis devenu ostréiculteur en août et j'ai arrêté en mai 2020. Donc j'ai vécu l'hiver en ostréiculture. Et c'était formidable, c'était vraiment formidable. On a aussi vécu le confinement en tant qu'ostréiculteur, mais du coup on ne l'a pas vraiment vécu parce que nous on partait en mer tous les jours. Comme il y avait moins de plaisanciers sur le golfe, il y avait beaucoup plus de poissons aussi. Les oiseaux revenaient. On a plutôt vécu ça comme une bénédiction qu'autre chose, nous. C'était assez formidable. Mais oui, donc pour revenir à la préparation, le métier en soi, il est extrêmement physique. Extrêmement physique. On porte des poches qui vont de 5 à 30, 35 kilos.
Oh la vache.
Ouais. On se déplace sur des chalands, des bateaux qui peuvent entrer dans des parcs à huîtres qui sont très rectangulaires, et sur ces chalands-là on a des grands cadres dans lesquels en fait on met les poches, on les empile les unes sur les autres, et sur un chaland il peut y avoir plusieurs milliers de poches. Donc en général on fait des marées à 3 ou à 4, ça dépend de l'ampleur du travail qui nous est imposé par le chef. Mais oui, en gros, en sortant de marée, on était complètement explosé, ça c'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que la préparation physique étant ce qu'elle est, avec un ostréiculteur qui est devenu un ami aujourd'hui, qui s'appelle Géraud, on se tirait la bourre pendant toutes les marées pour se donner à fond. Et bon, lui, il faisait ça par passion. Moi, je faisais plus ça par obligation pour me préparer physiquement à ce qui m'attendait quelques mois plus tard. Donc voilà. Et puis mentalement, bon, ben voilà, l'eau, elle était pas très chaude. Hein. On était à un petit 6-7 degrés. Et puis voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'heures
chaud. Ouais, ça fait pas chaud quand même. Mais je pense à un point. C'est peut-être aussi intéressant au niveau de la répétitivité. En expédition, tu fais quand même souvent la même chose tous les jours, entre guillemets. C'était intéressant aussi au niveau mental de te mettre dans une cadence où tu répètes le même geste tout le temps, non?
Exactement. C'est très très vrai ce que tu dis. Effectivement, la répétitivité des gestes, la répétitivité de... Parce qu'il y a deux parties dans l'ostréiculture. Il y a une partie en mer, donc la partie marée, et puis il y a la partie chantier, sur laquelle on doit traiter les huîtres, on doit les laver, on doit les trier, on doit les calibrer. Et cette partie-là, elle est extrêmement justement cadencée, et c'est l'usine en fait. C'est l'usine, donc il y a du bruit tout le temps. Souvent, on répète les mêmes gestes. Donc l'idée, c'est de dégraisser son geste pour arriver à être le plus efficient possible, et être le plus efficace possible. Et ça, effectivement, donc c'était un métier d'usine. Et la répétitivité de ces gestes-là, ça nous habitue à la monotonie. Et cette monotonie-là, effectivement, on la retrouve en expé. Voilà, où on marche 10, 11, 12, 13 heures. Ce serait une vaste fumisterie que de dire que je ne me suis pas ennuyé. Évidemment, l'ennui, c'est constitutif d'une expédition en marchant, en tout cas. Et la monotonie fait partie du paysage, quelque part. Donc, l'ostréiculture, ça m'a énormément aidé à ce niveau-là. Oui.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as, pardon pour le mot, un dégoût de l'huître? Ou est-ce que tu en es encore aussi fan, tu raffoles, tu en prends à tous les apéros?
J'en mange des douzaines.
Ouais.
Non, j'adore. C'est un animal vivant, hein, faut le savoir. En tant que breton, je dois l'aimer. Non, j'adore les huîtres et je continuerai à l'aduler pendant de nombreuses années, je pense.
Et tu fais ça, du coup, par nécessité, tu me disais, préparative à ce qui se passe derrière. Tu avais ça, ce projet d'expédition qui te traîne dans la tête. Comment est-ce qu'il germe, tu vois? À partir de où il vient, tu disais, effectivement, le Grand Nord... marcher dans le froid, etc. Quand est-ce que tu commences à être vraiment sur un vrai projet concret, quoi?
Alors, c'est bien que tu dises le mot germe, parce que c'est exactement ça, en fait. Depuis tout petit, j'ai cette graine, mais qui est enfouie. Et j'ai mis de l'eau, on va dire, sur cette graine-là pour qu'elle pousse, donc au moment où j'étais en fauteuil roulant en Australie. Et elle a grandi, et progressivement, en fait, c'était pendant ma rééducation que l'Islande est née. C'était le moment où je suis rentré en réalité en France. À ce moment-là, j'avais ce besoin de partir dans le Grand Nord. Pas dans le Grand Nord, on va dire. J'avais besoin d'une étape transitoire. Le Grand Nord, ce sera dans quelques mois. Mais j'avais besoin de cette étape transitoire qui est l'Islande. L'Islande est née grâce à un livre qui a été écrit par Pierre Loti, qui s'appelle Pêcheur d'Islande, qui est assez connu, qui n'a rien à voir avec la constitution géographique de l'Islande, puisqu'il traite des pêcheurs en réalité, donc que de son pourtour océanique et de la relation entre les marins pimpolais en Bretagne et les pêcheurs islandais là-bas. Mais en tout cas, l'intuition m'est venue à ce moment-là. Et donc je me suis intéressé à cette île et je me suis aperçu que cette île était dotée d'une esthétique folle. Je m'explique. Il y a peu de pays sur Terre, il y a peu d'îles sur Terre qui ont cette diversité environnementale, cette diversité de biotopes, de reliefs. C'est une île qui a différentes échelles. On peut trouver des fjords en bord de mer, on peut trouver des couronnes de glace, des glaciers immenses au milieu de l'île. On a des déserts de sable noir, des plages immenses longilignes. On a des, voilà, des plaines marécageuses. Et puis, il y a les Islandais, quoi. Les Islandais qui sont extrêmement atypiques. C'est des gens du Nord, donc ils sont... c'est le Baïkal. C'est-à-dire que la surface est très froide, mais si jamais tu creuses, c'est un infini, quoi, de profondeur. Et donc, ouais, donc, cette terre de feu, là, et de glace m'a directement énormément attrayé. Et une fois que l'Islande était définie dans ma tête, j'ai tout mis en ordre et je me suis préparé pour y arriver, pour la parcourir de la plus noble des manières pour moi, à savoir la marche. J'avais besoin d'être face à face avec la nature, d'être lent, parce que la lenteur présuppose une fécondation différente des éléments sur ton regard. C'est-à-dire, comme tu es très lent, les choses te pénètrent en fait. Spontanément, tu peux rien. C'est-à-dire que la nature, elle s'offre à toi comme ça et t'es juste le témoin, quoi. Et cette lenteur-là, pour moi, je trouvais une grande noblesse en fait à cette lenteur-là. J'ai voulu ralentir le mouvement du corps pour intensifier celui de l'esprit, quelque part. Voilà.
Donc tu fais ostréiculteur de août 2019 à mai 2020 et tu décolles quand pour l'Islande ?
Alors.
Parce qu'il y a eu confinement, donc je me dis, ça n'a pas dû aider pour les projets. Comment c'est quoi la sortie de ça, quoi ?
Bah, le confinement, en fait, en Islande, c'était différent qu'en France. Pardon. On arrive sur place, on a juste à faire un test PCR et on attend les résultats et puis en fait, on peut partir. Et je suis arrivé au bon moment, en fait. Je suis arrivé au bon moment parce qu'après, les choses se sont un peu corsées et puis une quarantaine a été mise en place et l'Islande étant ce qu'elle est, la plupart des touristes arrivent sur cette île-là, ils restent 10 jours pour faire la fameuse route circulaire autour de l'Islande et les plus grands spots touristiques, et repartent. Sauf qu'ils ont mis, les autorités islandaises ont mis une quarantaine de 7 jours. Donc pour des touristes qui restent 10 jours, c'est pas très très profitable. Donc du coup, en fait, ça a découragé le tourisme. Et malheureusement, l'économie islandaise s'est effondrée ces derniers temps. Ils ont un taux de Covid qui est quasi nul. Hein. Ils ont dû avoir quelques cas. Peut-être ça se compte vraiment sur les doigts de la main. C'est scandaleux pour la France, je veux dire. Mais globalement, oui. Donc pour revenir à ta question, je suis arrivé sur place à la mi-juillet.
Ok.
À la mi-juillet, j'ai commencé mon expédition à Akureyri, qui est la capitale du nord de l'Islande, qui est enclavée dans un fjord. Et en fait, au bout de 10 jours d'expédition, j'ai traversé une chaîne montagneuse au nord d'Akureyri, enfin au nord-ouest d'Akureyri, qui était assez peu foulée par les gens, par les hommes. Et beaucoup de gens m'ont dit de ne pas y aller. Je suis assez têtu. Du coup, j'y suis allé. Et malheureusement, il m'est arrivé un petit déboire. En fait, j'ai dévissé sur un sommet. Il faut savoir que je portais un sac de plus ou moins 30 ou 35 kilos à ce moment-là. Et cette chaîne montagneuse-là est supposée la traversée de plusieurs arêtes extrêmement effilées et des traverses de sommets qui étaient en pente raide. Donc des pentes, ouais, des pentes avec une déclivité assez forte. Sauf que avec 30 kilos sur le dos, c'est pas super évident, quoi. Et en fait, pendant une de ces traverses-là, j'ai dévissé. Je passe les détails alpinistiques, hein, mais en fait, la neige était trop molle pour que je m'assure. Je pouvais pas me vacher en fait à la paroi. J'avais des broches à glace, mais je pouvais pas me brocher. Bref, la neige était trop molle, donc je pouvais pas m'assurer. Donc en fait, les traverses, je devais les faire en one shot. Je pouvais pas vraiment m'arrêter sur la traverse parce que d'une part c'était exposé et puis d'autre part la neige ne me le permettait pas. Sauf que la traverse faisait plus ou moins 150 ou 200 mètres de long et à un moment donné, les mollets chauffent et la fatigue arrive. Donc j'ai dû m'arrêter au milieu de la pente. Et pour me reposer, j'ai voulu me mettre dos à la pente pour un peu alléger mes mollets, quoi, et alléger la tension. Sauf qu'au moment où j'ai amorcé ce mouvement de bascule, là, j'ai dévissé. Donc dévisser, ça veut dire j'ai chuté et je me suis retrouvé dos à la pente, comme une tortue en fait. Et comme mon sac pesait 30 kilos et que mon piolet était accroché à mon baudrier, mais avec une sangle qui était élastique. Mais bref, le baudrier était trop loin de ma main. Je pouvais pas le choper, en fait. Je pouvais pas l'attraper pour pouvoir m'arrêter dans la pente. Et ben, je suis tombé sur 200 mètres. Et en bas, il y avait des rochers.
Encore.
again and again. Je sais pas si je suis malchanceux ou si je suis chanceux, parce que au final, quand je suis arrivé en bas, donc j'ai clairement vu la mort. Hein, pour moi, c'était la fin, quoi. La pente était extrêmement raide. J'allais à une vitesse folle. Je pouvais plus bouger parce que, comme je disais, j'avais comme une carapace dans le dos. Quand t'as 30 kilos sur le dos et que t'es plaqué au sol, tu peux pas bouger, quoi. Enfin, surtout lorsque tu tombes. Et je m'explose sur les rochers. Et en fait, avec la vitesse et comme j'étais en crampon, j'ai scindé les rochers en deux. C'est-à-dire que j'allais tellement vite que j'ai coupé les rochers en deux, quoi. J'ai coupé les rochers en deux et donc j'ai perdu connaissance. Je pissais le sang, etc., etc. Je passe les détails. J'ai perdu connaissance et au moment où je me suis réveillé, en fait, mon épaule gauche était au niveau de mon pectoral. Et c'était pas très 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 beau à voir, parce que je me suis dit, tiens, c'est quoi cette bosse là? C'était pas là avant. Et en fait, donc je pouvais plus bouger. J'étais dans cette espèce de champ de roche qui était en contrebas de la pente. Et extrêmement exposé, parce que ce pourquoi la neige était molle, c'est parce que les températures s'étaient réchauffées, en fait. Et lorsque les températures se réchauffent, sur les sommets, les rochers ont tendance à chuter. Et ça, c'était le gros problème après, en fait. C'est parce que donc, j'étais immobilisé. Heureusement, j'avais un GPS qui me permettait d'envoyer un SOS. Et je suis droitier. Et mon épaule qui s'est disloquée, c'était la gauche. Donc je pouvais utiliser mon bras droit et ma main droite. Et donc j'ai envoyé un SOS directement. Donc c'était à Garmin, qui est une entreprise anglaise qui s'occupe de ce genre de choses. Et voilà, ils m'ont dit, bon, écoute, on t'envoie des secours par hélicoptère, etc., etc. Les secours sont arrivés plus ou moins 8 ou 9 heures après. Et pendant ce temps-là, j'ai perdu connaissance plusieurs fois et j'ai eu des hallucinations. C'est-à-dire que il y a des moments où, en fait, j'ai eu un réflexe de survie, à savoir, lorsque tu tombes comme ça, lorsque tu fais une chute assez violente, ce qu'il faut faire, c'est te sécuriser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est te coller à la paroi et assurer ta tête. J'avais pas de casque, malheureusement. Et donc, en fait, j'ai construit une espèce de barrière de roche un peu en amont de moi pour pouvoir limiter les chocs en cas de chute de pierre, etc. Ensuite, j'ai enlevé tous mes sacs étanches qui étaient très très colorés, comme ça, si jamais l'hélicoptère venait, il pouvait me repérer. Et puis j'ai sorti mes couvertes de survie, évidemment. Le problème, c'est que comme mon épaule gauche était flinguée, je pouvais pas couvrir la moitié de mon corps. Je pouvais couvrir que la partie droite de mon corps, en fait. Donc, j'avais assez froid. Et pendant ces heures d'attente là, donc en fait, il y a des chutes de pierres qui sont arrivées sur moi, donc je me suis pris des pierres dans le dos, ce qui m'a ouvert le dos. Et comme j'étais dans une période d'hallucination, j'ai cru en fait que les secours arrivaient par le haut et qui faisaient chuter des pierres sur moi. Donc je gueulais, je fais arrêtez, enfin en anglais quoi, arrêtez, je suis en dessous, calmez-vous quoi. Alors que, enfin pas du tout quoi, c'était juste des pierres qui chutaient. Et puis voilà, les secours sont arrivés 8 heures après. Ils m'ont filé pas mal de millilitres, enfin, c'est pas des millilitres, c'est des grammes de morphine dans le sang. Et puis, donc, il y avait 12 personnes qui sont quand même venues pour moi. Hein, c'est...
Ah oui.
Ouais, ils ont dû faire une dépose de matériel sur le col le plus proche. Ils sont venus au pied de la pente dans laquelle j'étais. C'est des espèces de mini quads en fait qui permettent de se déplacer dans n'importe quel milieu. C'est un truc avec 6 roues en tout. Et donc ils ont déposé ce matériel là. Et puis ensuite il y a 4 sauveteurs qui sont venus me chercher. Je pèse pas très très lourd, mais bon, avec tout l'équipement et tout le sac et tout, il fallait quand même du monde. Donc aujourd'hui je leur dois ma vie, clairement. Hein, parce que... Et puis, je dois ma vie aussi à ce GPS, parce que si jamais j'avais pas de GPS, je pense que, voilà, again, je serais pas là pour en parler. Mais bon, voilà, donc j'ai été héliporté à Reykjavik, et ils m'ont remis l'épaule en place, au bout de la troisième tentative, parce que j'avais tellement froid, j'étais tellement crispé, qu'ils pouvaient pas me la remettre, en fait. Donc, ils ont dû m'endormir complètement, anesthésie générale, pour pouvoir me remettre l'épaule en place. Et puis voilà, donc je suis resté 4-5 jours à Reykjavik et je suis re-rentré en France.
Ah merde.
Je suis re-rentré en France pour soigner mon épaule. Et après 6 semaines, je suis reparti en Islande. Pour finaliser le boulot.
Têtu de chez têtu, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves.
Donc tu arrives mi-juillet là-bas, tu fais 10 ou 11 jours d'expé, tu tombes. On te récupère, tu fais 3 jours à Reykjavik en gros le temps de transition. Tu fais 6 semaines de récupération en France, donc on est globalement mi-septembre, quoi. Et là, tu repars en Islande.
Exactement, c'est ça. J'ai dû adapter mon itinéraire, du coup, hein, parce que les saisons ont évidemment changé. Donc j'ai adapté mon itinéraire et du coup, je suis parti de la région, cette fois-ci la plus reculée d'Islande, les fjords du Nord-Ouest et la péninsule d'Arnstrandir, qui est le bastion du renard polaire. Donc je suis parti de là-bas, ouais, effectivement, je suis parti de là-bas du coup le 24 août.
Mais t'avais le temps de te soigner, enfin je me rends pas compte. Mais...
Absolument pas.
Ouais, c'est ça.
Non, je. En fait, lorsque je suis rentré en France, donc je crois vraiment en la rééducation active. Donc j'ai fait énormément d'exercices. L'idée c'était de remuscler le sac de muscles de l'épaule. Parce que bon voilà, j'avais quand même 35 kilos à porter et avec une épaule flinguée, c'était pas très très évident quoi. Donc il fallait que je m'adapte. Et j'ai été voir mon ostéo et je lui ai dit voilà, écoute, donne-moi une solution quoi. Donne-moi une solution. Et il m'a dit écoute, j'ai peut-être une solution pour toi. C'est un bandage extrêmement serré. C'est tout ce que je peux faire. Et il m'a appris en fait à bander mon épaule d'une certaine manière, extrêmement resserrée. L'idée c'était de changer le bandage tous les 4-5 jours. En réalité, je ne l'ai jamais changé. Et j'en ai fait un unique au début et puis il est resté pendant tout le temps. Enfin, je l'ai eu sur le dos pendant 3 semaines ou un mois et demi, je crois. Je ne sais plus exactement. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pendant assez longtemps. Et donc j'ai été voir mon ostéo, il m'a dit tout ça. Et je suis reparti. Donc j'étais momifié. J'avais tout le haut du corps qui était blanc. De bandage et je suis parti effectivement donc dans le Strandir et puis j'ai commencé à marcher vers le sud.
Et donc l'itinéraire c'est traverser l'Islande à pied depuis donc nord-ouest jusqu'au sud.
C'est pas vraiment une traversée. Moi j'avais pas de l'itinéraire importait dans la mesure où il me permettait de voir des choses. Donc j'avais pas un point A et un point B et boum je traçais une ligne droite entre les deux. J'ai terminé l'expédition à Akureyri. si jamais on regarde la carte de Arnstrandir à Akureyri, j'avais juste à suivre la côte nord et en 800 bornes, c'était terminé quoi. Non, l'idée c'était de parcourir l'Islande. De parcourir l'Islande, j'avais des endroits à voir absolument. J'avais des spots que je voulais voir, des glaciers que je voulais grimper. Et je voulais aller là où l'instinct me porte, littéralement. Et là où les gens n'allaient pas, si possible. Parce que lorsque les gens ne vont pas dans un endroit, moi, ça me donne envie d'y aller. Voilà, donc j'y allais. Et donc je suis parti du nord-ouest. J'ai descendu toute la péninsule nord-ouest. Ensuite, j'ai pris direction plein ouest vers une péninsule qui s'appelle la péninsule de Snæfellsnes, qui est assez connue dans la littérature, puisque Jules Verne... dans son roman Voyage au centre de la Terre a fait de l'entrée de la croûte terrestre le glacier Snæfellsjökull. C'est de là que commence son histoire en fait et c'est de là que le voyage vers le centre de la Terre commence.
Ouais, c'est excellent.
Donc en étant passionné de littérature, je ne pouvais pas passer autre part.
Bien sûr.
Donc voilà, donc je suis passé par ce glacier là, je l'ai monté, c'était formidable. Bon, il y a eu quelques péripéties, mais je passe outre, sinon on en a pour 3h30. Mais je suis rentré, donc j'ai fait demi-tour, donc j'ai contourné pendant la péninsule de Snæfellsnes jusqu'à une ville qui s'appelle Borgarnes. Et de là, j'ai planifié toute ma traversée des Highlands, donc des hautes terres. On m'a déconseillé de le faire à cette période. Parce que avant, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'une fois que je suis arrivé à Reykjavik, j'ai partagé mon itinéraire que j'avais en tête avec des guides de haute montagne pour avoir le ressenti vis-à-vis de cet itinéraire. Bon, ils m'ont pris pour un fou. Il fallait pas que je le fasse.
Même le guide de montagne te prend pour un fou, c'est que vraiment, tu as dû faire un tracé
C'est-à-dire qu'en été, c'est faisable. Il y a des gens qui ont fait la traversée nord-sud de l'Islande. C'est un itinéraire qui n'est pas facile, mais qui est parcouru quand même par des gens. Lorsque j'étais à l'hostel à Reykjavik, il y avait un gars, par exemple, un homme qui a tenté la traversée sud-nord. Bon, le problème, c'est qu'il s'est fait rouster et au bout de 6 jours, il a été pris dans une tempête et il a dû abandonner. Malheureusement. Donc l'Islande, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, malheureusement. Il y a eu beaucoup de morts, notamment dans les Highlands, de personnes qui n'étaient pas préparées, qui ont tenté des choses qui n'étaient pas trop grandes pour eux, mais ils n'étaient pas assez préparés pour y faire face, en fait. Et c'est ça la question, tout est dans la préparation, en réalité, dans l'anticipation de certaines choses, et il y a des points fondamentaux à cocher avant d'y aller, quoi. Je pense qu'il faut oser dans la vie, hein. Oser, c'est rester en vie, clairement. Il faut aussi maîtriser sa peur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut avoir conscience aussi de certaines de ses compétences. Il ne faut pas être stupide et partir. Je veux dire, une personne ne peut pas aller au pôle Nord comme ça parce qu'elle a envie. C'est un suicide. Et l'Islande, dans une moindre mesure, c'est un peu la même chose. En hiver, on n'y va pas. Et il faut être préparé pour ça. Donc je me suis préparé. J'avais du matériel qui était approprié, je me suis préparé physiquement, voilà, je me suis volontairement mis dans la merde avant de partir. Je portais un sac qui n'était absolument pas ergonomique, avec beaucoup trop de kilos sur le dos, et puis j'allais dans des endroits qui étaient très abrupts, et il n'y avait pas de sentier. L'idée, c'était de me mettre hors de ma zone de confort pour lorsque, en Islande, j'arriverais dans ce genre d'environnement et de conditions qui étaient un peu difficiles, que je sois plus à l'aise, quoi. C'est ça l'idée. La préparation physique, ça fait partie de ça. Donc, pour revenir au guide de haute montagne, donc ils m'ont expliqué un peu ce qu'il fallait absolument que je fasse, notamment par exemple pour les traversées de rivières glaciaires, des choses comme ça, ou des endroits qui étaient extrêmement exposés au vent, ou toutes ces choses-là, quoi, des tips en fait. Donc, sur mon carnet de notes, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Ils m'ont énormément aidé et aujourd'hui je les en remercie à 1000%, quoi, parce que c'est aussi grâce à eux. Enfin, c'est une expérience solitaire, mais je le dois à tellement de monde que ce soit en termes de soutien pendant l'expédition ou même avant, c'est important, quoi. Le soutien moral, mental, c'est extrêmement important.
Et tu fais ça combien de temps, du coup ? Si le détail, pour ceux qui nous écoutent, on a discuté un peu avant le podcast, c'est vrai que tu es en pleine rédaction du bouquin, donc ça, on aura les croustillants dans le bouquin qui va arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est elle dure combien de temps, cette expédition ? Et qu'est-ce que tu en tires, du coup ?
Elle dure 144 jours. 144 jours, ouais. Donc, du 24 août au 14 janvier. Donc, c'est une expédition qui s'est déroulée à cheval sur 3 saisons.
Ok.
Enfin, 3 ou 2, quoi, parce que les Islandais considèrent que l'été se termine mi-août en réalité. Mais bon, si on considère le calendrier, c'est 3 saisons. Donc 144 jours, je marchais en moyenne entre 10 et 12 heures par jour, soit plus ou moins 30 km. Ça dépendait énormément du terrain. C'est-à-dire qu'on n'avance pas de la même manière lorsqu'on marche sur une piste qui est carrossable ou alors dans 50-60 cm de poudreuse. Ensuite, le nombre de kilomètres évoluait aussi en fonction du lieu de bivouac. C'est-à-dire que ça m'arrivait souvent de me réfréner ou alors de donner beaucoup plus que je ne devais donner pour arriver dans un endroit qui était sûr, qui était safe. Voilà, il ne faut jamais bivouaquer au bord d'une falaise qui est extrêmement exposée aux chutes de pierre, etc., ou sur un col, enfin bref. Donc, le lieu de bivouac est changé aussi et structuré le nombre de kilomètres que j'allais parcourir. Je suis arrivé en plein hiver, donc la fin c'était un peu compliqué, j'avais des températures qui n'étaient pas évidentes à gérer. Toutes les rivières étaient glacées, donc souvent je traversais sur des ponts de neige. Donc je devais enlever mon sac, je m'encordais à mon sac, je mettais mes crampons, je sortais mon piolet, je me mettais à 4 pattes ou alors je m'allongeais et puis je rampais en fait, de manière à disséminer mon corps sur le plus grand espace possible et limiter le poids. Puis des fois je suis passé à travers, ça c'est encore un autre sujet, mais oui je suis déjà passé à travers de rivières et ça c'était pas facile à gérer, mais bon, ça fait partie du jeu. Et sinon, ce que j'en tire, c'est une leçon d'humilité déjà. Une leçon d'humilité face à la nature. C'est-à-dire que la nature, elle est ni hostile ni bienveillante, elle l'est. Point. Et c'est à nous de nous adapter. Nous, on fait que passer. On n'est pas. Jamais tu gagneras contre le blizzard. Il y aura toujours le dernier mot. Donc ça, c'est le premier enseignement. Une grosse, grosse leçon d'humilité. Ensuite, j'ai compris aussi qu'à travers la lenteur et à travers la marche, on pouvait changer notre regard sur les choses. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais les choses n'existent que parce qu'on les regarde en partie. Et on sous-estime beaucoup trop le pouvoir du regard sur les choses. Et en réalité, on peut enrichir le présent seulement à travers le regard qu'on lui porte, en réalité. Et l'expérience de la monotonie, par exemple, le simple fait de voir quelques détails dans du sable, ça aiguise notre regard et ça l'approfondit énormément. Donc, le second enseignement, ce serait ça. Ce serait un approfondissement du regard en pleine nature, quoi. En pleine nature. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est que peut-être que la collection d'expériences, le danger et le risque ne sont que des principes, on va dire, intensificateurs de l'existence. C'est pas une finalité en soi. Ça sert à rien de se mettre en danger gratuitement. L'idée, c'est de comprendre que la vie, quand elle est sur la corde raide, là, que tu as conscience que tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est ça qui te fait prendre conscience de sa valeur en réalité. Donc, le danger et le risque, ce sont des intensificateurs. Ce n'est pas des finalités. La finalité, ça peut être... D'être soi-même d'une part et de se sentir vivant, en fait. Et moi, c'est ma manière, quoi. J'ai marché 3000 bornes, certes, mais on s'en fout un peu des chiffres. L'idée, c'était juste de vivre une aventure solitaire, froide, silencieuse, et d'en témoigner aussi. Parce que j'ai conscience que je suis un grand, grand, grand privilégié. Et aujourd'hui, c'est important de témoigner de ces choses-là, en mots, en photos, peu importe, mais j'ai choisi de faire les deux. Parce que je suis gourmand. Mais ouais, le témoignage, je pense qu'il est important. Ouais.
Et typiquement, tu parles. Ouais. Typiquement, tu parles de. Enfin, de d'enrichissement perso, de devoir témoigner de ça après. Est-ce que tu penses que toi, si tu devais refaire cette exposition, toi, si je te reprojette en août, t'étais assez prêt pour la faire? Tu vois, si tu dois être le parrain d'une prochaine expédition, est-ce que tu changes quelque chose ?
Je pense qu'on n'est jamais assez prêt. On peut toujours peaufiner certaines choses. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est cette marge-là qui nous permet de côtoyer, de caresser l'inconnu. C'est pour ça qu'on recherche l'aventure aussi, je pense. C'est cette marge-là, cette méconnaissance. C'est ça qui est excitant, en fait. C'est de savoir qu'on ne sait pas tout. Et qu'il y a cette possibilité de basculer, en fait. Ça, c'est cool. Donc oui, je pense que je pourrais... Bien sûr, si jamais je rétrospectivement, j'aurais pu mieux la préparer, cette expédition, mais ce serait prétentieux de dire qu'on est parfaitement à la hauteur de ses rêves. Enfin, je veux dire, les rêves, ça se cultive et ça s'enrichit. Et même lorsque j'étais en train de marcher, je rêvais d'autres choses. J'ai rêvé d'autres expéditions, etc. etc. Donc oui, si jamais je suis le parrain d'une prochaine expédition, je soumettrai un autre avis, peut-être plus complet, ça c'est sûr, avec l'expérience que maintenant elle a été réalisée. Je changerai rien, on va dire, mais j'enrichirai, ouais. Ouais, je pourrais enrichir certaines choses, bien sûr.
Et tu disais, enfin, typiquement 144 jours, il y a un détail qui me intrigue depuis tout à l'heure. Est-ce que tu avais emmené toute ta bouffe là pendant 6 mois ? Comment tu faisais pour les ravitaillements ? Parce que l'eau, je devine, tu fais fondre de la glace, tout ça. Mais par contre, en termes de nourriture, est-ce que tu as chassé ? Est-ce que tu faisais des points stratégiques où tu refaisais le plein ?
Alors chasser, c'est un peu compliqué parce que l'Islande est dépourvue d'animaux sauvages. Il y a quelques animaux, le renard qui est chassé malheureusement par les chasseurs, il y a le renne qui est semi-sauvage, mais bon, je sais pas. J'ai ni la volonté ni le matériel pour chasser. Non, j'ai adapté mon itinéraire pour avoir de la nourriture lorsque j'en avais besoin. Donc j'ai eu un temps d'autonomie maximal qui était de 22 ou 24 jours, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas parlé à un humain pendant 24 jours. Ça, c'est le maximum que j'ai fait. Après, ouais, en fait, j'allais dans les villages. L'Islande est relativement bien dotée en supermarché. Donc, j'achetais ma nourriture là-bas. Donc, ça oscillait entre la nourriture qui était lyophilisée, donc extrêmement légère et très, très énergisante, énergique, je ne sais pas comment on dit. Sinon, je mangeais du couscous, du thon. Je mangeais beaucoup, beaucoup de chocolat. Du muesli, des noix, des noisettes, des amandes, des abricots, toutes ces choses-là, qui sont assez connues. Hein, je veux dire, le rapport poids-énergie, c'est important. Donc j'ai bâti mon itinéraire sur cet impératif de nourriture aussi, en quelque part. C'était obligatoire. La nourriture, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le mouvement. Sans mouvement, on meurt. À moins 30, si jamais tu ne bouges pas, tu meurs. Si jamais tu n'as pas de refuge. Voilà. Donc le maximum que j'ai fait, donc c'était une vingtaine de jours en solitaire. Donc à ce moment-là, je portais beaucoup. Je crois qu'au maximum, j'ai porté 38 kilos quand même. C'est pas super facile, mais bon, le corps s'adapte. Hein. Sincèrement, le corps s'adapte.
Qu'est-ce que tu mets dans le matériel là? Tu parles 38 kilos. Si tu nous fais une petite parenthèse rapide de technique. Et c'est quoi? Il y a une tente, il y a un réchaud, il y a une tenue de rechange ou pas, j'en sais rien. C'est quoi le...
Alors, en termes de matériel, ça a été une longue préparation aussi. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup pensé à la chose. Donc comme c'était une expé qui était hivernale, donc dans le nord, j'avais un matériel qui était approprié. Donc une tente 4 saisons. Donc qui dit 4 saisons dit évidemment plus robuste, donc plus lourde que les tentes classiques. J'avais un matelas qui était très épais. Le sommeil pendant ce genre d'expédition, c'est fondamental. Si jamais tu ne dors pas, tu n'as pas d'énergie, tu n'avances pas. Donc j'avais besoin d'avoir le matelas, pour moi, c'est même, je dirais, la pièce maîtresse de l'expé. Parce que lorsqu'il faisait très froid, si jamais ton matelas se dégonfle, ce qui était le cas à la fin, toutes les heures et demie, à peu près, je le regonflais. Mais toutes les heures et demie, tu devais te réveiller, puisque si jamais ton matelas touche terre, lorsque ton dos et tes fesses touchent par terre et que le sol est à 0 degré, lorsqu'il est gelé, tu ne peux pas dormir. C'est impossible. Même si tu as un sac de couchage à moins 40, ce n'est pas possible. Donc le matelas, c'était important. J'avais un gros sac de couchage, évidemment. Ensuite, j'avais tout le matériel de traversée de glacier. Parce que, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas à faire. C'est quelque chose qui est dangereux. Et je me suis préparé pour ça. J'ai traversé des glaciers en solitaire. Il m'est arrivé quelques déboires dessus, effectivement, à cause de la météo ou à cause d'une mauvaise lecture de l'environnement, certainement. J'ai ma part de responsabilité, évidemment. Mais parce que j'ai traversé les glaciers, il me fallait une très longue corde, il me fallait des broches à glace, il me fallait des mousquetons, il me fallait un piolet, il me fallait des crampons, il me fallait un masque de ski pour éviter de se cramer les yeux. Donc, c'est des lunettes à... catégorie 4, donc qui protège contre les rayons UV. Il fallait évidemment un gros GPS. J'avais tout le matériel électronique aussi, parce que mine de rien, j'avais un appareil photo, donc j'avais plus de 5 batteries. J'avais 3 batteries externes en tout, 2 grosses et une toute petite. J'avais un chargeur solaire qui m'a pas beaucoup servi, parce que bref. Arrivé en automne, la lumière est assez faible et comme je marchais beaucoup et j'ai quand même eu pas mal de mauvais temps, le chargeur solaire m'a assez peu servi. Mais j'avais un matériel électronique qui était assez fourni, donc un appareil photo évidemment. Donc j'avais toute ma nourriture, j'avais beaucoup de gants, j'avais des moufles d'expédition, j'avais des sous-gants techniques, j'avais des sous-gants en laine qui me permettaient de prendre des photos lorsqu'il faisait très froid. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, évidemment, j'avais le truc classique, hein. J'avais mes chaussures d'expédition, donc qui donnaient un apport thermique aux choses, qui étaient très rigides, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'ampoules, et aussi en partie pour ça que j'ai eu quelques gelures, malheureusement. Mais mes chaussures m'ont plutôt bien servi, ouais. Un pantalon, bref, Gore-Tex classique, quoi. Je vais pas, On n'est pas là.
Non mais ça m'intriguait, tu vois, de comprendre quand tu dis 38 kilos.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as, en fait, la question, elle est plus cachée derrière, c'est qu'est-ce que t'as en une fois et qu'est-ce que t'as en plusieurs fois.
Bah les fringues, déjà, c'est obligatoire dans ce genre d'environnement qui sont très très humides. C'est obligatoire d'avoir toujours une tenue complète qui est sèche, qui est parfaitement sèche. La deuxième chose, c'est savoir réguler sa température, parce que si jamais tu transpires trop, bref, tu gèles sur place. C'est aussi simple que ça. Donc la connaissance de son corps, c'était important aussi. Mais globalement, oui, j'avais donc une tenue complète, donc des grosses chaussettes de laine. Enfin, sous la tente, j'avais 3 paires de chaussettes, mais surtout des grosses paires de chaussettes de laine. J'avais un pantalon de randonnée classique thermique. J'avais des sous-vêtements techniques en laine de mérinos. J'avais des cagoules, plusieurs cagoules. J'avais des tours de cou en polaire. J'avais des tours de cou techniques aussi.
Alors, en gros, si je dois résumer, toute la partie extérieure, genre pour dormir, ça c'est en une fois. Et tout ce que tu portes, toi, là, tu mets 2-3 fois avec différents dégradés d'épaisseur ou de matière. Plus après tous les repas, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Globalement, en gros, tout le matos technique était unique.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne pouvais pas le remplacer.
Ouais.
La tente, les chaussures, le pantalon d'XP, bref, toutes les choses qui sont extérieures, en fait,
ouais.
Comme tu l'as dit très bien. Et après, mes sous-vêtements et la nourriture, ça, c'était en
plusieurs fois.
En 1000 fois, ouais. Ouais.
Bon, alors du coup, tu me parlais tout à l'heure de prochaine expédition dans quelques mois. Est-ce qu'on peut en avoir un peu le détail ou est-ce que c'est encore trop secret ?
Non, on peut en parler. On peut en parler. Pour l'instant, c'est assez tu. Mais oui, globalement, l'idée, c'est que si jamais le livre fonctionne, j'espère pouvoir financer ma prochaine expédition. C'est un très grand projet qui se déroulera sur plusieurs années. Et l'idée, c'est de créer un feuilleton, en fait, un feuilleton dans le Grand Nord. Je veux faire le tour du monde à pied, en ajustant ma trajectoire globalement autour du cercle polaire arctique. J'ai pas envie de la suivre exactement, parce que je trouve ça un peu stupide de suivre une ligne fictive alors qu'il y a du beau au nord, il y a du beau au sud. Donc je me laisse quand même des marges. C'est pour ça que ça va durer très longtemps. Donc il y aura beaucoup de détours. Mais globalement, ouais, c'est ça. C'est de parcourir la Terre à pied dans ces zones-là, en plusieurs étapes. J'ai pas envie de me hâter et de détruire mon corps. Parce que là, en Islande, mes pieds ne ressemblent plus à rien. Et puis j'ai pris assez cher quand même, corporellement, on va dire. Donc ce serait des étapes de... Ouais, je sais pas exactement encore. Peut-être entre 3 et 5 000 km à pied à chaque fois. Et à l'issue de chaque étape, il y aurait un livre, ou du moins une partie d'un livre qui serait rédigée, qui serait écrite. Et voilà, donc je témoignerai une nouvelle fois en mots et en photos de ce tour du monde. Donc ça commencerait en Alaska.
C'est énorme. Improbable, j'en ai pris plein la vue. Là, donc j'ai la chance de te voir parce que t'es pas très loin d'ici en train d'écrire ton livre, donc tu as fait le déplacement et je te remercie. Si jamais tu termines le bouquin, est-ce que t'as déjà une maison d'édition ? Comment est-ce qu'on fait pour te suivre du coup, pour avoir les aventures et la date de publication de ce livre ?
Alors, j'essaie de ne pas aller trop vite en besogne. C'est-à-dire que j'ai pas envie de pondre un livre qui est mauvais. Donc je veux prendre du temps pour ce livre-là. J'espère en faire mon métier. Donc le premier livre, il est quand même extrêmement important. C'est cardinal, fondamental. Donc je ne veux pas me hâter. Un peu à la manière de l'Islande. Je veux être lent dans la chose. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça va prendre un peu de temps avant que le livre ne soit publié. Deuxièmement, non, je n'ai pas encore de maison d'édition. D'ailleurs, si des éditeurs nous écoutent, je suis ouvert. Mais non, je dois terminer la rédaction complète du manuscrit avant de le soumettre à qui que ce soit. Pour moi, c'est important d'avoir quelque chose de complet. J'ai besoin de savoir d'où je suis parti et d'où je suis arrivé avant de le soumettre à qui que ce soit. Ça, c'est le premier point. Donc la date de publication, désolé, mais elle est inconnue aujourd'hui. Si je peux donner un ordre d'idée, j'espère terminer le livre dans plus ou moins 4 mois. c'est ce laps de temps que je me donne, mais bon, j'ignore honnêtement, j'ignore vraiment de quoi le futur sera fait. Pour ce qui est de me suivre, bah écoute, j'ai créé une page Instagram pour l'expédition. Je suis pas quelqu'un qui est très 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 réseaux sociaux globalement, mais bon, il faut vivre avec son temps. Et la modernité a créé ce qu'on appelle le réseau social. Donc Instagram, voilà. Instagram, c'est la plateforme que j'ai choisie puisqu'elle permet le développement de petits textes et c'est aussi une plateforme axée sur la photographie. Donc c'est cette plateforme-là pour laquelle j'ai opté. Donc voilà, c'est ma page s'appelle Des Nouvelles du Nord, tout simplement.
Des Nouvelles du Nord.
Ouais, Des Nouvelles du Nord. Voilà.
Parfait.
Voilà, donc je publie. J'ai pas de fréquence établie, mais j'essaie de partager mon point de vue sur ce que j'ai vu, tout simplement.
Merci. Hein, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. Je suis trop fan de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Peut-être avant de se quitter, une dernière question. C'est en général celle que je pose à la fin. Si jamais on avait la technologie pour te renvoyer à Pierre-Antoine qui se parle le matin pour aller pêcher, qui n'a pas encore fait cette chute, qu'est-ce que tu lui dis ?
Bonne chance, mon collègue. Le chemin est encore long et... Ouais, juste crois en toi, quoi. Crois en toi et... Ouais, jette-toi, quoi. Faut y aller, quoi. Faut...
Dans l'aventure, hein, pas de la falaise. On est d'accord. Pardon, parce que l'image, du coup, est peut-être mal choisie.
Sublime, magnifique. Non, oui, bien sûr. Jette-toi et faut y aller, quoi. Il faut y aller, quoi. Juste point. Faut y aller. Les gars, allez-y, quoi.
Merci Pierre-Antoine pour ce super temps. J'étais ravi de faire ta connaissance et on a hâte de voir ce que donne le bouquin dans les quelques mois qui viennent.
Mais merci à toi. C'est un honneur magnifique. Enfin, sincèrement, merci beaucoup et bonne chance pour tes futurs podcasts qui, j'espère, seront aussi bons que les précédents. Et j'espère que celui-ci pourra faire plaisir à certaines personnes qui nous écoutent.
À très bientôt.
Merci.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.